Les controverses du village, épisode numéro 10, troisième partie, le débrief de la troisième journée du Comic-Con. Je suis Sullivan Le Postec, avec Dominique Montet.
Bonjour.
Émilie Flamand.
Bonjour.
Et une invitée, Delphine Rivet de Reviewer.
Bonjour.
C'est parti. Alors aujourd'hui samedi au Comic-Con, pour nous un peu les journalistes on va dire, c'était quand même la journée des interviews, on a quand même pas mal enchaîné, on s'est un peu divisé le travail. Oui, la division du travail ça peut pas faire que des heureux si vous voulez. Bon allez, en gros donc il y avait toute l'équipe de Merlin qui était déjà là, qui est venue... qui était l'année dernière, Angel Coulby et Katie Maguas étaient venus le jeudi un peu, le jeudi matin, c'était pas forcément...
Discrètement le jeudi matin, elles étaient venues, hein, parce que en effet, par rapport à aujourd'hui, il n'y avait pas foule. Hein,
l'année dernière, alors qu'aujourd'hui, il y avait carrément foule. des interviews en panel par groupe de deux, la première avec Colin, Morgan et
Bradley James.
C'est-à-dire Merlin et Arthur. Et le deuxième panel avec Katie Maguas, donc Morgana, et le co-créateur de la série...
Scénariste Julian Jones.
Voilà. Des bonnes interviews, ça s'est bien passé, Delphine et...
On était ensemble pour l'interview de Colin et Bradley.
Ouais. C'était très speed, on va dire, globalement, les deux tables rondes. Donc, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des portes qui se ferment, il y a des gens qui passent, il y a des interruptions. Vous étonnez pas quand vous l'écouterez.
Je vous interromps, je voudrais quand même vraiment savoir, parce qu'il y a des choses essentielles dans la vie... Est-ce que Arthur a fait de la musculation pour le
moment? Tu l'as voulu, la question.
C'est quand même vraiment le plus important. C'était la question à poser.
Émilie et moi, on n'a pas voulu se dévouer pour poser la question. Voilà, mais c'est vrai que ça nous démangeait quand même.
Il y avait une question clé, on va dire, sur l'interview. Hein, on se battait pour la poser. On était tous sur des choses tellement superficielles comme le fond de l'histoire ou l'évolution des persos. Et elle est quand même arrivée. Est-ce que vous avez pris du muscle à Bradley James? Et voilà.
C'est important. Non,
donc là, je pense que vous verrez, on vous la gardera quand même au montage, hein, vous verrez la réaction de Colin Morgan aussi, hein, qui a bien ri. Vous ne verrez pas nos têtes.
C'est parce qu'il a pas
un
de
peu
muscle.
Blasé sur le côté « Non mais désolé, excusez-nous, désolé, ouais. On n'y peut rien, c'est pas nous, on connaît pas la personne qui a posé la question. » Mais bon.
Du coup, parce qu'il y avait aussi c'était la journée Merlin aujourd'hui en gros. Il y avait notamment la projection des premiers épisodes, les deux premiers de la saison 3. Tu en as parlé un petit peu sur le site, mais c'est ce que tu disais. Moi, pour être honnête, j'ai décroché de Merlin en milieu de saison 2. C'est un truc que, enfin, c'est sympathique, mais ça m'a, enfin voilà, au bout d'un moment, j'ai décroché sur l'épisode pour les gens qui ont suivi l'épisode avec. L'épisode en deux parties avec la femme gnome qui est
pourrie. Oui, bon, qui est un peu pourrie.
Donc voilà, c'était un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase.
Non, la saison 3 est. Alors globalement, pour revenir au sujet, la saison 3, c'est pour ça que je me suis collée à l'interview. Je suis la seule à l'avoir vue, cette série, entièrement. Du coup, ça m'a fait rater autre chose, mais on y reviendra après. Mais la saison 3 est meilleure que les précédentes. Dans le sens où. Et le gros avantage sur la saison 3, c'est que. L'ouverture et le final se répondent et ils ont de l'allure, ça a de la gueule. Bon, c'est pas brillant comme une ouverture de Doctor Who, mais c'est quelque chose de construit et quand même, voilà, on retourne dans la mythologie. C'est pas que des épisodes pour rire avec des gnomes, des trucs qui font péter, des oreilles de d'âne sur la tête d'Arthur. Ouais. C'est pas que ça.
Il y a encore des épisodes stand-alone. Je crois que c'est plus beaucoup. Pour ajouter au côté comédie parce que c'est une série qui est. Cette saison était assez noire. Avec donc Morgan qui est passé du côté obscur de la force clairement, donc je pense que c'était plus pour balancer un peu la noirceur de la série. Ce qui est intéressant pour moi dans cette saison, c'est que ils vont un peu plus en avant, un pied de plus en tout cas dans la légende arthurienne. Donc, tant mieux parce qu'ils en étaient quand même assez loin au départ. Donc là, on commence éventuellement à avoir un petit peu quelque chose d'intéressant.
Disons que là, à la fin de la saison 3, on se dit que logiquement, s'ils ne décident pas de prendre des chemins de traverse, à la fin de saison 4, on devrait arriver à une situation où ça y est, on est dedans. Par rapport à l'avancement d'Arthur, etc., par rapport à Uther, voilà. Globalement, la saison 3 est quand même meilleure.
Mais cette série-là, en fait, c'est juste un guilty pleasure ou ça vraiment, y a vraiment un peu plus de moelle et de matière?
Bah, non, c'est pas un guilty pleasure. Un guilty pleasure, c'est quand vraiment il y a rien à part mater les abdos de Richard Armitage dans Strike Back saison 1. Là, c'était un guilty pleasure pur. Il y a pas de doute. Non, là c'est plaisant. Moi, enfin, personnellement, je trouve que c'est assez plaisant à regarder. C'est pas le truc que je vais attendre en transe de semaine en semaine. Mais de faire une saison de Merlin, c'est le genre. En fait, c'est le genre de série qui nous manque en France parce qu'on n'a pas de série moyenne. C'est pas une grande série, mais c'est pas non plus un truc mauvais où t'as juste envie de lui jeter des trucs.
C'est juste une série de divertissement.
Voilà, c'est basique sur. C'est basique sur les intrigues, c'est basique sur. On sait ce qui va se passer sur les persos.
L'humour n'est pas hyper élaboré.
Non, mais il fonctionne.
Il
fonctionne sans être ridicule. On n'est pas sur le running gag qui, tout compte fait, n'est pas maîtrisé et qui devient lourd. On n'est pas sur la vanne que personne pige parce qu'elle a été trop pointue. On est sur un truc basique. Mais ça marche.
Bon, et puis aujourd'hui, le fan de Merlin français était venu en force à la Comic Con.
Alors, ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu autant de filles de 15 ans pousser des cris. Et voilà, c'est. Ouais. Comment dire ?
C'est pas le même genre de cri que Pinage, sachant.
Voilà. Il y avait beaucoup de monde. Ouais. Ça m'a fait penser moins que Pinage quand même l'an dernier, moins qu'Hérocorp l'année dernière. Hein, il y avait quand même pas autant de foule. Mais c'est vrai que la salle de conférence était pleine, les salles de dédicace, ils étaient en transe aussi. Mais globalement, l'an dernier, il y avait beaucoup de monde, beaucoup de bruit. On sentait que c'était des gens qui adoraient le truc. On sentait que c'était pas que des gens qui rêvaient d'embrasser l'acteur principal. Là, je pense qu'il y aurait eu plusieurs malaises s'il y avait eu ça en jeu.
Il y en a peut-être eu d'ailleurs des malaises.
Ah, ça, j'ai pas vu de secouriste passer, mais on ne sait jamais.
S'il revient l'an prochain et qu'il fait des bisous à tout le monde parce que la série est remontée,
Moi,
la première. Hein.
S'il fait des bisous à tout le monde parce que la série est renouvelée, pour autant, je pense qu'il n'y aura pas de gamines de 15 ans qui pousseront des cris quand même. C'est pas le même rapport. C'est un peu plus âgé, c'est un peu moins.
Parce que quand il va faire la bise à Jojo, 44 ans, qui tient une baraque à frites.
Est-ce que Jojo a des posters de lui de 6 mois assis dans sa chambre? Je ne suis pas sûre.
Oui, mais il sera mobilisé, il voudra son bisou. Hein.
Voilà, mais le bisou sera pas le même. Parce que, à mon avis, l'autre, tu n'arrives plus à la décrocher, la dame, la demoiselle.
Bon, et donc en prélude à la grande journée Stephen Moffat, Doctor Who de demain. Il était déjà là aujourd'hui, mais dans les coulisses de la Comic Con pour ses interviews. Donc on l'a. Pour la plupart d'entre nous. on l'a croisé ce matin, on fait des interviews en panel, c'est toujours un petit peu court, on a prévu 10 questions, on peut en poser 2, voilà, c'est la règle du jeu, on le sait avant de venir. Et on est quand même très très content de pouvoir parler à Stephen Moffat, quoi. Parce que c'est ce que je disais, parce qu'on est dans une question panel avec plein de sites différents, y compris des plus généralistes. Qui n'ont pas des lignes forcément éditoriales super super pointues. Et ce qui est génial avec un mec comme Stephen Moffat, c'est que même quand il n'a pas une question brillante, la réponse elle est brillante quand même, quoi. Donc à tous les coups on gagne.
Ouais. Il est très bon client, il est brillant. Il est pas. Il est toujours. Enfin, moi j'ai trouvé toujours sympa, drôle. Toujours, il est bouillonnant comme mec, donc c'est un vrai plaisir de l'avoir. Moi c'était ma première interview avec lui, j'étais sur un nuage, quoi.
Il dit toujours quelque chose d'intéressant ou alors il le dit de manière intéressante, c'est assez bluffant, quoi. Donc non mais c'est vraiment impressionnant de le voir. En même temps on n'a pas vraiment le temps d'être impressionné, ça fait un quart d'heure on est lancé dans le truc, bonjour, oui on tient la caméra, oui on pose les questions, au revoir.
Et là on réalise, oh la vache, je crois que j'ai parlé avec Stephen Moffat, les gars.
Voilà, c'est ça, tu réalises après.
C'est après coup.
Tu réalises après.
Non, moi je me disais, tiens, je crois qu'Emilie, elle n'était pas avec nous.
Donc pour la petite histoire, c'était en même temps que les interviews de Merlin. Et donc j'ai échangé la quantité, on va dire, quand même, parce que j'en ai eu 4, moi, pour le prix d'un. Voilà.
Ouais, mais franchement.
Mais j'ai pas eu.
Ça fait 13 semaines de la saucisse. Hein.
Allez, pas du vlog pour rien.
Il est beau, mon panel, il est beau.
Bon, donc demain c'est la grande journée Stephen Moffat à la Comic Con, en fin de matinée conférence sur son métier de scénariste, avant-première des deux premiers épisodes de la saison 6 et conférence sur Doctor Who spécifiquement, et puis après les dédicaces. Donc voilà, grande journée Doctor Who, Stephen Moffat, dont évidemment on vous parlera longuement a priori. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre aujourd'hui? Notamment, Dominique, tu as assisté à une conférence à propos de comics.
Alors, une conférence sur les comic books, sur les limites que se posent en fait, les auteurs par rapport à un médium qui est à la base plutôt pour les enfants ou pour les ados et qui propose des titres parfois qui sont ultra violents et jusqu'à où ils se posent des limites. C'était une conférence qui aurait pu être extrêmement intéressante, qu'il a été par moments, mais c'est vrai que là on a un peu touché les limites structurelles de la Comic Con en fait. Donc les salles de conférence, pour ceux qui ne sont pas venus à la Comic Con, sont à ciel ouvert, donc on subit un peu le son des autres événements qui peuvent être extrêmement bruyants, donc les filles de 15 ans pour Merlin qui en effet tapaient dans les ultrasons, et puis d'un autre côté un match, alors je sais pas si c'est du football ou du boofball. Je pense que c'est plus du boofball, donc le jeu de football de Wakfu, la série animée française, qui là, par contre, avait plus des cris plus primaires, plus masculins, on va dire. Donc on était un peu pris entre deux feux. Ce qui fait que non seulement les intervenants, quand ils parlaient, étaient interrompus, mais en plus, ça gênait la phase de traduction. À beaucoup de moments, la traduction qui était assez lente, parce qu'il fallait leur répéter, parce qu'elles n'avaient pas bien entendu, et des fois, elle est en contresens complet de la réponse qui avait été donnée par le participant. Donc du coup, c'était un peu frustrant. Et si on n'était pas bilingue, on est ressorti avec une impression qui n'était pas celle que les auteurs voulaient donner. Donc là, c'est un petit peu... c'est très bien sur le papier. Le panel était hyper intéressant. Brian Azzarello en tête d'affiche. Mais au final, une petite déception, un petit sentiment de déception à la fin, parce que ça n'a pas été ce que ça aurait dû être.
Aujourd'hui à la Comic Con, c'était l'occasion d'un premier passage pour les gens de Making Prod aussi, donc une boîte de production française dont vous avez déjà parlé plusieurs fois au village, une jeune boîte de production par des jeunes producteurs assez dynamiques qui ont envie de se lancer dans les séries avec une ligne éditoriale, ils essayent d'imposer des choses un peu fortes quoi. Ils ont fait notamment Les Invincibles pour Arte, qui était la série dont des épisodes étaient projetés aujourd'hui. Et il y avait une conférence aussi. Et ils ont fait...
toutes leurs prods quasiment sont projetées à la Comic-Con.
Voilà, demain, c'est La Chanson du Dimanche, Empreinte Criminelle.
Voilà, qui est une prod et ce avec soir, il y a la web-série Putain de série. Donc aujourd'hui, ils ont fait... Il y a deux conférences. Demain, un échange de questions-réponses sur La Chanson du Dimanche. Et aujourd'hui, il y avait une conférence sur Les Invincibles. Donc à laquelle ont participé deux personnes, donc Stéphane Drouet qui est un des producteurs et Alexandre Castagnetti qui est un des scénaristes et co-réal sur la série, qui est aussi, vous le connaissez sans doute plus parce que c'est un des deux lurons de La Chanson du Dimanche. Voilà. Et donc ils ont fait une conférence devant une salle comble, mais il faut l'avouer, pas forcément très attentif, puisque c'était juste avant la conférence de Merlin et que toutes les groupies de Merlin étaient déjà en place pour être bien placées. Donc les pauvres ont une salle qui n'était pas forcément réactive, mais bon, ils ont maintenu le cap, ils ont essayé de faire parler, de faire découvrir, de donner envie de découvrir la série Les Invincibles au public. Bon, je résumerai globalement ce qui s'est dit pendant la conférence. Pour ceux qui connaissent et qui nous ont suivis sur Les Invincibles, pas beaucoup des nouveaux éléments. On avait déjà parlé, on est revenu sur les budgets, sur le tournage, sur la BO, sur la version originale. Le seul point, en fait, qui sur lequel moi j'ai un peu levé la tête et où je pense que j'essaierai d'avoir plus d'éléments... si je peux demain, si je les recroise, c'est donc l'absence pour l'instant de renouvellement sur une saison 3. Mais c'est pas non plus un non. Et la possibilité, s'il y a une saison 3, que la série passe au format 26 minutes. Ce n'est pas non plus définitif, je pense, d'après ce que j'ai compris. Mais bon, voilà. C'est un élément qui, vu la série actuelle, qui est en 52 minutes... vu ce qu'on attend de la saison 3 si on se réfère à la série canadienne, est un peu difficile à comprendre à première vue. J'essaierai d'en savoir plus et de vous en reparler demain.
Ils sont très forts chez Making Prod, quand même, parce que moi je les attends l'année prochaine, je suis persuadé qu'ils vont avoir un stand au salon de l'agriculture. Quoi. C'est, ouais. C'est incroyable.
Mais ils ont raison.
Ah, mais je dis pas qu'ils ont tort.
Ils ont raison.
Ce qui me frappe en fait, c'est que du coup, ils démontrent en creux tout ce que les autres producteurs français font pas, exactement. Et qui pourraient faire avec un tout petit peu d'effort et qui changerait les choses pour les séries françaises, quoi. Un peu d'implication, un peu de niaque, un peu de se montrer aux gens, de rentrer à la rencontre avec les gens. Et si voilà, ils étaient pas les seuls à se battre un peu pour avoir de la visibilité, bon, ben la série française, elle pourrait, en termes de visibilité, ça pourrait changer du tout au tout, quoi. Tous les autres prods, il faut vraiment les tirer par la peau des fesses pour les amener quelque part.
Les autres prods ne sont pas de toute façon moteurs sur ce genre d'événement. Ça va être à la limite les diffuseurs ou les distributeurs qui vont vouloir placer pour faire la com. Les prods d'elles-mêmes ne considèrent que c'est pas leur rôle. Déjà, pour la plupart des prods, quand vous leur parlez de faire du marketing, de faire de la communication, c'est le rôle de la chaîne qu'ils diffusent et pas de la prod. Voilà. Et c'est quand même.
Non, mais c'est exactement ça, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est-à-dire que moi, j'étais. C'est pas normal, mais j'étais étonnée de voir que Making Pro, justement, se démenait sur les réseaux sociaux, notamment. Moi, j'ai été approchée par le community manager qui a changé depuis, mais bon, bref, pour Empreinte Criminelle, pour la chanson du dimanche. J'étais allée du coup à l'avant-première, tout ça. Donc, c'est quand même dommage. On est en 2011, que ce soit. Ça n'ait pas été fait avant. Enfin, ça a dû être fait.
Que globalement.
Mais enfin, globalement, c'est quand même assez rare de voir des séries dont on fait la promo sur Facebook à grands coups de concours. Il y a eu un jeu concours aussi qu'on avait relayé sur Reviewer pour la chanson du dimanche.
Il y a eu les brunchs
criminels. Voilà, il y avait
des brunchs sur la chanson dimanche matin. On pouvait rencontrer l'équipe de la série au cours de brunch et discuter avec eux.
Ouais, il y avait un concours Facebook aussi sur empreinte criminelle où chacun devait donner son interprétation de l'empreinte et il y avait des choses très créatives d'ailleurs, j'ai suivi un petit peu ça. Enfin, c'était.
Puis la campagne de lancement de la première saison des Invincibles pour Arte avait été massive. Ouais, c'était les 4x3, les bouquins dérivés, les trucs.
Là pour le coup, c'est une campagne de com qui avait du budget. Mais ce que je trouve plus intéressant, c'est qu'en effet, avec les brunchs, etc., il y a des idées qui sont moins coûteuses, qui sont juste pour aller toucher le public qui est la cible, le public de fans de séries, qui est un public qui peut paraître de niche pour les diffuseurs, sauf qu'au final, c'est eux qui vont faire le plus parler et ça leur assure la campagne gratuite. C'est entièrement la base de la campagne Pinage qu'on avait mis en place et qu'on met toujours en place d'ailleurs.
Et le truc qui est un petit peu dommage, c'est que de l'extérieur, je pense que Making Prod donne l'impression d'en faire 15 fois trop, alors que non, c'est pas que Making Prod en fait 15 fois trop, c'est que les autres n'en font pas assez.
Pas assez, ouais.
Et ce qui est flippant par rapport à ce qu'on disait, le fait que les producteurs en général français estiment que c'est pas leur rôle de faire cette promo et qu'on voit que par exemple il y a une chaîne comme Comedy qui diffuse des séries et qui estime que la promo c'est au prod de l'affaire et pas à elle. Globalement Comedy fait aucune promo sur ses programmes, elle a passé 3 séries cette année, 2 des séries personne n'en a entendu parler sauf vraiment ceux qui nous lisent tous les jours avec vraiment passion, quoi. La seule série dont on a un peu entendu parler, ben, c'est la chanson du dimanche, parce que Making Prod a fait la promo. Sinon, Miko et Cartman, et puis la série avec Eboué, dont j'ai oublié le nom, c'est pour dire à quel point. La série avec Eboué, une série de bureaux, qui est passée en janvier. Voilà.
Ouais.
Voilà.
Nous sommes censés être experts en série française, donc pour vous dire.
C'est ça. Mais voilà, Comedy considère qu'elle n'a pas le budget, qu'elle n'a pas la volonté, qu'elle fera pas de promo. Et les prods considèrent qu'eux non plus. Donc c'est sûr qu'on est un peu mal barré si on en reste là, si vous voulez.
Je pense qu'ils attendent un petit peu aussi que les gens viennent vers eux. Ils font pas l'effort inverse. Je pense que ça a pas mal coûté, je pense notamment à Aérocorp.
Oui, mais clairement.
Moi, j'étais pas au courant des diffusions, j'étais pas au courant des rediffusions, alors que j'ai envie, comme beaucoup, de sauver cette série. Là, maintenant, on sait quand est-ce que ça va être rediffusé, là, en septembre. Mais,
sinon, il n'y avait pas d'autre moyen de savoir.
Mais avant d'avoir déjà Comédie ou France 4 et de suivre le programme télé, faut vraiment. Moi, je tombais dessus, quoi.
Pour donner une idée, c'était la réponse qu'on avait le plus souvent, quasiment, quand on discutait avec les gens. Moi, j'ai eu beaucoup de réactions. Parce que du coup, j'ai fait pas mal de dédicaces, de pinagement, etc. Donc j'ai croisé pas mal de fans, de gens qui n'avaient pas su que la saison 2 avait été diffusée. Donc des gens qui n'avaient pas pu la regarder, forcément. Et aussi, ce type de réaction sur, du coup, comme elle a été diffusée, que je l'ai pas su, je suis allée la télécharger. Il n'y a pas que ça, certes, mais il y a aussi cette justification-là. Et au final, c'est quand même dommageable. Et ce que je note, c'est que France 4, sur la saison 2, n'a fait même pas une pub pour annoncer la diffusion de l'épisode juste avant l'épisode. Il n'y avait même pas ça. Alors que là, sur les deux soirées, les deux nuits HeroCorp qui sont à Perpète-les-Oies, certes, à 23h40 jusqu'à 4h, ok, bon, c'est un horaire, c'est un horaire. Mais France 4 diffuse, et là, là, on a une com. Il y a quand même eu une évolution depuis un an.
Bon, on sera magnanime, mais à ma main, je vais le mentionner quand même, que la bande-annonce qui prétend qu'il y a encore une série des frères Astier,
oui.
C'est quand même un gros,
oui.
Gros fail du service com.
Qui a dit ça, j'ai pas.
C'est dans la bande-annonce, de la série 4, des frères Astier.
T'as envie de te taper la tête contre les murs, quoi. juste taper HeroCorp dans Wikipédia avant d'enregistrer le texte de la bande-annonce. Oui,
HeroCorp, suite de Kaamelott.
Voilà, non, mais c'est la première fois que j'ai entendu, ça a d'abord été le super, France 4 fait de la com. Mais qu'est-ce qu'il raconte, ça. Donc voilà, bon, petite erreur, messieurs, si vous pouviez corriger.
Bon, Delphine, tes impressions générales sur la Comic-Con?
Non, mais moi, Moffat, ça m'a suffi. Hein. J'étais
voilà. Et il remue le couteau dans la
exactement.
Plaie.
Non, mais je veux dire, moi, il y aurait eu que Moffat, j'aurais été...
D'ailleurs, elle aurait eu seule en tête-à-tête, elle l'aurait kidnappée dans son cochon de voiture.
Oui, alors voilà, initialement, mais...
Chut, c'est notre plan pour demain.
Voilà, mais moi, je prévois de kidnapper Simon Astier demain.
On a une experte sur le sujet, tu peux lui demander.
Oui, je lui dirai pas que je te connais, parce qu'apparemment... Ouais.
Je tiens à préciser que je ne l'ai jamais kidnappée ni séquestrée, contrairement à toutes les rumeurs qui circulent.
Voilà, donc... Non, mais moi je suis...
D'accord, il pousse des cris quand il me voit, mais il s'enfuit pas encore.
Je suis ravie. J'ai perdu un tympan parce qu'effectivement, au moment de la conférence Merlin, j'étais en bordure de salle et je me suis pris un ultrason là, tout d'un coup. Donc c'est là que je suis partie d'ailleurs. Mais non, globalement, bah, beaucoup de monde. Donc ça a l'air d'avoir... moi, c'est ma première année au Comic-Con, donc je pense que ça a super bien marché. Voilà. Non, c'est une bonne impression.
Il y a un monde de fous cette année, ouais. C'est incroyable. Par rapport à l'an dernier, l'affluence du week-end de l'an dernier, c'était l'affluence du jeudi et du vendredi cette année, et là, juste, c'est noir de monde, c'est noir de monde.
Et j'ai un peu des craintes pour demain, en fait.
Ouais. et juste, on n'en a pas du tout parlé, et c'est vrai qu'on en a discuté, nous, entre nous, tout à l'heure. On n'a pas reparlé cette année des web-séries qui sont présentes à la Comic-Con. Globalement, on retrouve les mêmes que l'an dernier, dont on avait déjà parlé, Le Visiteur du Futur, et d'autres aussi, Nerds, Noob, etc. Il y a, j'ai jamais su dire non, enfin, il y a pas mal de web-séries. Putain de séries un peu différentes, produites par une boîte de prod, les autres étant autoproduites.
D'accord.
Mais dans les séries geeks, dans les web-séries geeks, on va dire, purement, il y a, non seulement elles sont toujours là, et ça fait partie des stands les plus bondés.
Oui.
Et lors des projections, il y a une salle qui est la salle de projection indépendante qui est ouverte aussi et dans laquelle il y a régulièrement les équipes qui viennent pour les séances de dédicaces, etc. Donc c'est assez accessible et c'est blindé. Pour vous dire, tout à l'heure, on m'expliquait que pour faire venir l'équipe de Merlin de la salle où ils étaient précédemment, donc dans les coulisses, jusqu'à la scène où ils devaient faire la dédicace, normalement, ils traversent la Comic-Con. Il y avait tellement de monde pour... une projection et conférence sur une des web-séries qu'ils ont dû faire le tour par l'extérieur.
Mon Dieu.
Voilà. Pour vous dire à quel point c'est blindé, ces web-séries.
Non, puis c'est l'hystérie, quoi. J'ai entreaperçu une projection d'une web-série que je ne connais absolument pas, dont je n'ai pas vu le titre. Et d'un seul coup, tu vois un personnage qui sort de derrière un arbre, qui est un petit gars qui a pas l'air de grand-chose, quoi. Enfin, qui est loin d'être une star, c'est pas du tout une guest. Et là, il y a la salle qui pousse des hurlements du genre, ça y est, c'est le caméo de Brad Pitt. Alors, c'est absolument pas ridicule, tu te dis, mais punaise, c'est dingue comment ils ont réussi à toucher un public.
Ils ont des communautés et fidèles.
Très fidèles et très enthousiastes, c'est vraiment impressionnant.
Bon, voilà pour le bilan de cette troisième journée du Comic-Con, petit débrief rapide. Je vous donne rendez-vous dès demain pour le gros morceau, la grande journée avec l'invité
d'honneur, Steven Moffat.
Le gros morceau.
À demain, bonjour chez vous.